Je suis Zoubi Dafal et vous êtes dans le podcast Conversation féminine. Nigérienne, maman, épouse, féministe, elle obtient un bac C au lycée de Kassé, un DEUG en économie à l'université de Niamey, un diplôme d'ingénieur des travaux statistiques de l'ENSEA d'Abidjan et un MBA de l'ESSEC Paris. Elle grandit entre le Niger, la Belgique, le Canada et la France. Elle démarre sa carrière à Ernst & Young en 2003, rejoint L'Oréal Paris en 2004, passe d'analyste à consultant senior entre 2006 et 2012 à Accenture. Elle devient responsable de programme à GIE Commutitre entre 2012 et 2014, rejoint LexisNexis en 2014 comme gestionnaire de programme, fait un passage à Performance Group en 2015 avant d'intégrer le NEPAD en 2016. Directrice de cabinet du directeur général et responsable du programme Compétences et emploi des jeunes entre 2016 et 2019, puis chef de division au programme du développement humain et institutionnel entre 2019 et 2022. Elle est actuellement la directrice Afrique d'Oxfam International depuis octobre 2022. Impressionnant, très certainement. Étonnant, pas pour moi, pour celle qui, je rappelle, et je la cite, a toujours été intéressée par les questions de formation, d'éducation, surtout vu sous le prisme de l'égalité des chances. Fatinzi Hassan, bienvenue dans Conversation féminine.
Merci beaucoup, Zoubida.
Merci à toi d'accepter d'avoir cette conversation avec moi.
Je t'en prie. Écoute, merci pour cette présentation. C'est toujours intéressant d'entendre résumer comme ça en quelques minutes tout un parcours professionnel. Mais c'est vrai que s'il y a un fil conducteur, en tout cas qui, moi, m'a toujours animée, c'est la question de l'égalité, l'égalité des chances. Comme tu l'as expliqué, j'ai passé une bonne partie de mon la première partie de ma vie hors d'Afrique. Je suis rentrée au Niger alors que j'étais déjà adolescente, donc j'ai vécu une sorte de choc en fait adolescente quand je venais de Paris et que je me suis retrouvée à vivre vraiment dans des conditions de Nigérien moyen, on va dire, si tant est que ça existe. Hein. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a eu quand même une sorte de révolte qui a commencé à se créer par rapport au fait que beaucoup de gens autour de moi n'avaient pas accès à certaines opportunités qui, moi, m'avaient mise quelque part sur une lampe de lancement, ne serait-ce qu'en termes de base, de connaissances, en termes de capacité à se projeter, à rêver, à s'imaginer. Et une grande partie de ce que j'ai fait en dehors de mon travail pour la première partie de ma carrière, et ensuite plus au Népal et peut-être encore plus aujourd'hui à Oxfam, ça a été d'essayer de refermer ce gap entre ce qui est et ce qui, j'espère, peut être.
Oui, c'est intéressant de t'entendre l'énoncer de cette manière-là, parce que je voulais savoir, depuis que je lis ton parcours et que je te suis sur les réseaux sociaux, justement, j'essayais d'identifier quel était ce marqueur ou quel était ce moment qui ont fait ta prise de conscience. Est-ce que tu l'associes juste au fait d'être rentrée au Niger, quand je dis prise de conscience et révolte quelque part, par rapport aux conditions? Est-ce que c'est le fait juste d'être rentrée ou il y a eu un moment précis dont tu pourrais te rappeler?
Alors, il y a eu, des petits moments comme ça au cours de mon enfance. Hein. Déjà, je me souviens, un voisin et ami, les parents étaient amis à nos parents, et c'était des Gabonais. Et un des garçons avait le même âge que moi, et on faisait tout ensemble. Et c'est vrai que déjà, à 5-6 ans, on se prenait des remarques sur... des jeux qu'on faisait ensemble, quand on jouait aux petites voitures, ou quand on faisait du vélo, eh bien les gens ne se gênaient pas pour me faire des remarques en tant que fille. Et je trouvais ça vraiment très bizarre. Et personne n'arrivait vraiment à m'expliquer pourquoi, si j'ai une petite voiture, je devais la donner à mon ami, par exemple. Des choses comme ça. Mais c'était plus des moments comme ça d'étonnement et de décalage et de me dire, mais voilà, est-ce que c'est moi qui suis pas normale? Parce que tout le monde a l'air de s'entendre sur le fait que voici comment je devrais me comporter. Mais le vrai gros choc, ça a vraiment été 91 quand on est rentré au Niger. Et ce qui est drôle, c'est que, enfin, ce qui est drôle, ce qui est assez intéressant à noter, c'était qu'on est, on est trois filles. On était à l'époque, on était trois filles, deux garçons dans la famille. Et on a tous vécu ce retour de manière un peu différente. Alors, moi, je parle de retour parce que je suis née au Niger. Mais le reste de la fratrie était né à l'étranger. Les filles, pour nous, les filles, on a eu ce choc un peu matériel de se dire, bon, voilà, les conditions de vie matérielles, évidemment, changent. Mais surtout, ce qui nous a choqués, c'était, bon, on ne le formulait pas comme ça, mais la condition de la femme, et la condition de l'adolescente et de la jeune fille. Et pour les garçons, sans vouloir parler à leur place, mais de ce que moi, j'en ai perçu, le choc était beaucoup plus centré sur les conditions de vie matérielles. Moi, je suis arrivée en fin de collège et déjà, on perdait pas mal de camarades à chaque vacances ou même en milieu d'année hein, qui allaient se marier. Et pour nous, c'était vraiment hallucinant de se dire que en troisième, en quatrième, on quitte l'école pour aller se marier. C'était vraiment des choses auxquelles on était, par exemple, très, très, très sensibles. Et ça, c'était pour celles qui avaient la chance d'être à l'école, parce qu'on avait aussi des voisines qui, malheureusement, n'avaient pas la possibilité d'aller à l'école. Donc, il y a eu comme ça beaucoup de choses qui nous ont beaucoup marquées et qui ont créé comme ça des couches et des couches de révolte. Oui, qui, sans encore une fois parler pour mes sœurs, en tout cas, qui nous ont toutes marquées à l'époque. Oui.
Ouais. Et du coup, parce que c'est un pays que je ne connais pas réellement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'être une femme au Niger?
Je m'entends tout à fait.
Oui,
oui,
parce
oui,
que
oui.
Je. Oui, aujourd'hui, c'est quoi être une femme? Ou c'est qu'est-ce qu'on attend d'une femme au Niger?
Alors, là encore, est-ce que je suis légitime pour répondre à cette question plus que
de ta perspective. Oh, tu vas parler ouais, de ta perspective.
J'ai quitté le Niger il y a 23 ans maintenant. Même si je garde des liens très proches avec le Niger, j'y retourne régulièrement. Et depuis 2016, j'y travaille aussi parce que j'ai des projets pour lesquels j'ai mobilisé des ressources, pour lesquels j'ai été active dans la mise en œuvre. Donc, j'ai plusieurs occasions d'y retourner, même plusieurs fois par an. Mais en même temps, c'est une réalité que je vis à travers, bon, évidemment, mes proches, ma famille, mes amis, mais que je ne vis pas directement. Si on veut, on peut regarder les statistiques hein, sur lesquelles on peut s'entendre. Je pense que c'est sans appel en termes d'accès à l'éducation. C'est un pays très compliqué pour les femmes, en termes d'accès aux soins de santé, en termes de cadre juridique. C'est très compliqué. Après, qu'est-ce qu'on attend d'une femme? Ça dépend aussi de l'environnement social. Ça dépend évidemment de la classe sociale, ça va dépendre aussi du lieu où vit cette femme, que ce soit en milieu urbain, milieu rural. Si on devait trouver des similarités, je pense que oui, beaucoup, beaucoup de choses reposent sur la femme, sur les femmes, que ce soit en termes d'attente pour ce qui est de la perpétuation d'une certaine idée de la culture nigérienne. Pour ce qui est d'une perpétuation de certaines pratiques. S'il y a un mot qui me vient à l'esprit, et ce n'est pas forcément positif de ma bouche, c'est des attentes de résilience. On s'attend à ce que la femme supporte, qu'elle supporte sans se plaindre, qu'elle supporte sans remettre en cause le statu quo. et qu'elle soit un agent voilà, de perpétuation du système. Donc tout ce qui sort un peu de ce cadre-là, toutes les femmes qui essaient de sortir un petit peu de ce cadre-là, de remettre en question certaines choses, c'est assez mal vu. Y a quand même un cadre dans lequel on s'attend à ce que les femmes restent ne sortent pas. Et ça va être, par exemple, on va vous dire, oui, pour l'autonomisation des femmes. Mais quand vous commencez à parler de sujets un peu plus systémiques, quand vous commencez à vous affirmer, par exemple, en tant que féministe, là, tout de suite, c'est beaucoup moins bien vu. Donc, oui, pour les microcrédits, mais pour l'accès au cercle d'influence, de pouvoir, plus compliqué. Voilà.
Oui, tant
ça
que
fait moins l'unanimité.
Exactement.
Et comme je le disais, pardon, mais comme je le disais, c'était oui pour la promotion des femmes à condition qu'elles soient rentrées à 17h pour faire à manger. Donc il faut pas trop. C'est l'idée, c'est de dire qu'il faut pas trop qu'elles, faut pas trop que les femmes aient à l'idée de remettre en cause certains acquis ou certains privilèges des hommes, sinon là ça peut créer une levée de bouclier, oui.
Oui, je le vois aussi, hein. On l'observe aussi, on est d'accord pour qu'elle soit autonome financièrement, on est d'accord pour qu'elle gagne de l'argent par elle-même. Tant que cet argent-là sert à la famille, pour que ça revienne à la famille, ça marche. Maintenant, quand ça sert à sa propre émancipation, ça devient un petit peu plus compliqué et on commence à mettre des garde-fous. Et comme tu dis, hein, il faut qu'elle soit rentrée à 17h pour pouvoir faire le dîner. Là, je crois qu'au Sénégal, on est quand même pour au moins servir le dîner, ce genre de choses. Mais c'est... Je retrouve dans une moindre mesure, parce que pour le peu que je lis du Niger, ça semble un peu plus compliqué, mais dans les zones urbaines, je m'avance un petit peu, j'ai l'impression que sur certains points, ça va mieux, en tout cas de notre côté. Peut-être que c'est une fausse image que je me fais, parce que c'est très possible, c'est un pays que je connais très peu, et je partage cela avec pas mal de Sénégalais, où on a juste cette vision très éloignée du Niger. Et ça me permet de te demander, si tu devais me conter ton Niger à toi, Fatih, qu'est-ce qu'il serait? Comment le décrirais-tu?
Je ne voudrais pas jouer les réactionnaires, mais je pense avec nostalgie au Niger des années 90. La fin du parti unique, le début du multipartisme... tout cet espoir qu'on avait, les premières femmes nommées à des postes tels que ministre des Affaires étrangères, vraiment c'était un vent pas de libération, mais quand même d'espoir et de conviction que bah, les choses étaient lancées et que les choses ne pouvaient qu'aller mieux. C'est aussi un peu naïf, hein. c'est voilà, la fin des années 90 avec l'arrivée d'Internet et moi qui avais été un peu pas coupée du monde parce qu'il y avait quand même la télé à partir de 18h et il y avait la radio, mais quelque part quand même avec cette idée de me dire qu'il y avait des possibilités de se connecter au monde de manière beaucoup plus intense. Et Internet qui arrive, et moi naïvement pensant que voilà, ça allait permettre aux gens de s'ouvrir, de se remettre en question sur certaines choses, d'échanger, de proposer, de faire partie un peu de cette conversation globale. Donc oui, je suis assez nostalgique de cette époque-là parce que ça, de mon point de vue, ça n'a pas évolué dans la direction à laquelle je m'attendais.
Oui. Et Il y a quand même une montée dans nos pays respectifs, un petit peu de tout ce côté, de tout ce conservatisme qu'on sent un petit. Et j'ai l'impression que nous perdons énormément d'acquis. Et la plupart du temps, quand j'ai des conversations avec des femmes sénégalaises d'une génération différente, c'est aussi ce qu'elles me rappellent, c'est qu'elles ont l'impression qu'il y a eu une régression sur plein de points. Et du coup, tu n'es pas seule dans ce constat-là, tu n'es pas forcément réactionnaire, mais c'est quelque chose que nous observons aussi dans nos pays respectifs. Donc voilà. Et tu as parlé tout à l'heure du fait qu'on attendait de la résilience de la résilience des femmes. Et ça m'a fait penser que j'ai vu un de tes tweets passer justement parlant de résilience.
Oui.
Et ce qui m'a marqué, c'est le second tweet, parce que oui, la définition d'une part, mais c'est quand tu rajoutes que la résilience peut avoir lieu lorsque les conditions narratives et affectives sont réunies. Je donne un sens à ma douleur, un, et deux, je suis soutenue par mon environnement. Comment, du coup, peut-on demander à quelqu'un d'être résilient s'il n'y a ni le un ni le deux? Qu'est-ce qu'on
Mais c'est
attend des
justement
femmes
le
après?
paradoxe. C'est justement le paradoxe, c'est de se dire que ben, y a des gens qui naissent résilients, qu'on a la peau dure, que du fait d'être une femme et du fait d'être nigérienne, on est en titane. On peut résister à tous les coups de la vie et c'est notre identité. Parce que j'ai même été témoin à plusieurs reprises de personnes se définissant. En tant que Nigérienne, par le fait qu'en tant que Nigérien, on est résilient. Mais pour moi, ce n'est pas de la résilience. Pour moi, c'est une manière de gérer des traumatismes successifs et de réussir à fonctionner malgré ces traumatismes. Et ça veut dire que derrière, on a aussi des moyens. D'évacuer ces traumatismes qui ne sont pas forcément très sains. Et je pense qu'on voit aussi des dysfonctionnements qui sont peut-être liés à ce fait-là. Donc oui, on a subi un choc. On n'arrive pas à faire sens forcément de ce choc-là, quoique certains arrivent à donner un sens. Mais surtout, il n'y a rien autour de nous pour nous aider à le surmonter. Il n'y a pas de ressources affectives, il n'y a pas de ressources émotionnelles. Que ce soit de manière organisée ou que ce soit de manière beaucoup plus ad hoc. Et puis on s'attend à ce que les gens soient résilients. C'est très compliqué, c'est très compliqué. Et ça se voit en fait dans les rapports humains qui peuvent devenir très très durs, même dans des choses qui n'ont vraiment pas lieu d'être compliquées, hein, une simple interaction. Que ce soit je ne veux pas citer de domaine, mais que ce soit dans le privé, vous allez pour solliciter un service dans une entreprise dont vous êtes cliente, vous allez vous retrouver face à quelqu'un qui va vous faire passer un sale moment. Parce que peut-être, hein, sans faire de la psychologie de comptoir, mais moi je pense souvent à ces gens, je me dis, mais ils doivent avoir une vie peut-être compliquée. Et donc on emmène nos traumas au travail, et quand on a un petit pouvoir sur la personne, eh bien en face, eh bien
Sans pitié.
on exerce ce pouvoir, sans faire de la psychologie de comptoir. Mais pour moi, la résilience, sans ces deux éléments, et surtout le deuxième qui est comment est-ce qu'on met à disposition les ressources affectives, c'est pas de la résilience, c'est autre chose.
Tu évolues beaucoup au-delà de Oxfam et même avant Oxfam dans tout ce qui est milieu associatif en règle générale, tu l'as évoqué. Ne te sens-tu pas des fois en décalage du fait d'avoir vécu plusieurs cultures, plusieurs vies, et rentrer au Niger et devoir t'investir dans ces projets-là? Comment tu le vis, toi? Comment le ressens-tu, pour ne pas dire est-ce que tu as un décalage, mais comment tu le vis?
À l'époque, je ne le sentais pas tant que ça, le décalage. Alors, je dois dire aussi que c'était une époque qui était complètement différente de mon point de vue, où la différence étonnait, mais sans provoquer forcément de velléité d'obliger la personne à se conformer. Par exemple, dans notre manière de s'habiller. On portait des shorts un peu longs, hein, des shorts aux genoux par exemple, des jupes aux genoux. Moi, jusqu'en terminale, je portais des jupes des jupes aux genoux. Hein, et je faisais, comme tu disais, le lycée cassé. Pour ceux qui connaissent Niamey, c'est au milieu d'un marché de matériaux de construction. Donc, c'est un marché, un des marchés quand même qui est le plus masculin et c'est pas forcément des gens très éduqués. Je traversais cet endroit-là avec ma petite jupe aux genoux et à l'époque, bon, ça, pour la plupart des gens, c'était un non-événement. Et puis parfois, tu avais des enfants, quand ils m'entendaient parler, surtout, ils disaient « Oh, mais elle a un accent que c'est, voilà, est-ce que c'est une blanche, etc. » Mais sinon, c'était pas, il n'y avait pas d'hostilité, si tu veux. Aujourd'hui, je pense que c'est quand même assez différent. C'est quand même assez différent. Et le décalage, je ne le ressentais pas comme étant une barrière, en fait. C'est ça aussi. Je ne sais pas comment ça serait aujourd'hui, mais le décalage, je ne le sentais pas forcément comme étant quelque chose qui m'empêchait de créer des contacts avec les gens. Et pour moi, c'était aussi une époque où j'étais très curieuse, en fait, de ce qui se passait. Parce que autant moi, j'étais différente, autant genre, le contexte était différent de ce que je connaissais. Et pour moi... comme on s'attendait aussi à ce que je sois dans une certaine mesure à la page de certaines choses, et que moi je venais avec une sorte de, comme tu disais, des décalages, j'ai beaucoup passé de temps à essayer de comprendre, d'analyser, d'intégrer, de faire sens en fait. Et pour moi, ça a été plus une richesse qu'autre chose parce que ça me permettait de déconstruire, c'est-à-dire d'analyser, de comprendre quels sont les différents éléments qui forment un tout, parce que je sais que ce tout qui existe là, il n'est pas forcément, il va pas forcément de soi, parce que ailleurs il y a d'autres tout qui sont constitués aussi d'autres éléments. Et donc cette posture de je suis dedans, je suis dehors, que j'ai finalement un peu partout, de par cette culture hybride, pour moi ça a été plus une richesse qu'autre chose. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi. Goddamn! Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi. Goddamn! Can't you see it? Can't you feel it? It's all in the air. I can't stand the pressure much longer. Somebody say a prayer. Alabama's gotten me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi. Goddamn! This is a show tune, but the show hasn't been written for it yet.
Quand tu es décalé, des fois, on te considère, on va te traiter de blanc. On va t'appeler, il y a une expression qui va te dire « tel est une touba », c'est un blanc. Et en règle générale, quand on te met dans cette case-là, que tu es un blanc, ça te laisse beaucoup de liberté pour te mouvoir, t'exprimer, tester, faire un certain nombre de choses. Il y a deux catégories au Sénégal. Soit on dit « tel, c'est un blanc » ou on dit « tel est fou ». Vraiment, d'accord. À partir du moment où on te met dans une de ces deux cases-là, tu es une sorte de, j'exagère à peine, hein, une sorte de privilégié qui n'est plus retenu par les dogmes, les règles de la société, et tu es beaucoup plus libre. Vous avez quelque chose comme ça au Niger où on considère que comme tu n'es pas de leur, tu n'as pas les mêmes mœurs, tu n'as pas la même manière de vivre ta vie, à partir de ce moment-là, tu es beaucoup plus libre. Parce que c'est en reparlant de ce décalage-là et le fait d'avoir plusieurs cultures qui me fait repenser.
Oui, peut-être. Après, je me dis que c'est aussi un privilège parce qu'il faut avoir aussi une certaine liberté financière pour pouvoir s'affranchir de certains dogmes sociaux. Ouais. Moi, je vais de toute façon, quand je vais au Niger aujourd'hui, j'y vais en tant que, voilà, soit de vacancière, soit en mission. Donc forcément, c'est un contexte artificiel quelque part. Et j'ai, que ce soit en vacances ou que ce soit en mission, j'ai toujours un planning très, très très chargée, donc ça m'a franchi quelque part de certaines obligations sociales. Après, j'ai aussi, à l'époque, j'étais aussi plutôt, on va dire, immunisée contre ces obligations sociales qui sont très chronophages en temps, hein. Baptême, mariage, etc. Je ne me pliais pas tout le temps, je me pliais la plupart du temps, je ne me pliais pas d'ailleurs à ces obligations sociales, même si on me prévenait que ça allait heurter ma capacité à m'intégrer socialement. J'y allais quand j'avais envie, voilà, et quand j'aimais bien la personne, et voilà, quand il y avait un intérêt pour moi, mais sinon, c'est vrai que j'essaie d'utiliser mon temps. En tout cas, quand j'ai eu un peu d'autonomie sur la manière dont j'utilisais mon temps, je faisais beaucoup de choses à côté de la fac, donc voilà. Après, est-ce qu'on traitait de blanche? Je ne sais pas, je sais que mon père disait souvent, de toute façon, elle en fera qu'à sa tête. Elle ne fera pas de clash avec vous, elle ne se disputera pas avec vous, mais à la fin de la journée, elle en fera à sa tête. Donc c'était un peu ça mon motto, c'était être assez imperméable, en tout cas à la vie des gens, faire les choses selon ce qui me semblait juste et voilà, et essayer de négocier tant que possible pour avoir, me créer mon propre espace.
Mais qu'est-ce qui te le permettait? Parce qu'apparemment, ça peut être dans ta structure familiale, ça peut être du fait de tes rencontres. Qu'est-ce qui te permettait de pouvoir vivre, on va dire, pas dans les clous de ce qu'on attend d'une femme, on va dire, d'une femme. Ouais.
Mon père, beaucoup, hein. Mon père, je pense que... j'ai eu des conversations avec mon père. Il est décédé depuis 14 ans maintenant. Paix à son âme. Mais rien que d'y penser, là, j'ai un peu un petit frisson qui me parcourt. Ouais. Parce que ce n'est pas des discussions faciles, en fait. Hein, quand tu es jeune adulte, femme au Niger, que tu dois aller tirer la chaise à côté de ton papa et dire « Papa, je peux te parler ?» Et puis avoir des discussions, je disais « Bon, voilà en fait ce que j'ai envie de faire de ma vie. Pourquoi est-ce qu'on penserait que c'est mal ?Est-ce que je peux le faire ?» et tout. Donc, on a eu ces discussions-là qui ont posé le cadre. Et lui, en tout cas, a été une sorte de rempart. Hein. J'évoquais tout à l'heure le fait que je faisais beaucoup de choses à côté de la fac. J'étais en faculté de sciences économiques à Niamey, et pour moi c'était évident que en tant qu'étudiante je devais avoir un boulot à côté. C'était l'évidence. En tant qu'étudiante, j'allais pas dépendre de mon père. Et donc, je me suis retrouvée finalement à faire beaucoup de choses. J'ai commencé par travailler dans une radio où j'étais d'abord, je faisais les voix pour les pubs. Ensuite, j'étais animatrice. Ensuite, j'étais réalisatrice, productrice même, parce que je concevais les émissions de bout en bout. J'allais chercher les sponsors, etc. Ensuite, cette radio a lancé une télé. Donc, je faisais un peu la même chose à la télé. Et puis il s'est trouvé que comme je faisais beaucoup de sujets autour de la culture, j'ai même créé une émission autour de la culture. J'ai été contactée par le Centre culturel français pour être attachée de presse, et je donnais aussi des cours de français à des diplomates asiatiques. Voilà. Et ça faisait un peu jaser quand même. Les gens comprenaient pas trop. Parce qu'en plus, c'était un métier un peu public, donc les gens me voyaient. Mais attends, c'est pas la fille d'Alcina qui elle était brillante pourtant au lycée. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va plus à l'école, elle va plus à l'université. Et donc, des gens que moi, je connaissais pas, mais qui, eux, connaissaient, que ce soit mon père ou ma famille, allaient voir mon père en lui disant « c'est pas normal ». D'ailleurs, c'est le moment où elle devrait penser à se marier. Le fait d'être comme ça dans l'œil public, ça va même réduire, ça peut même réduire ses chances pour se marier, etc. Et au bout d'un moment, donc à force de recevoir des commentaires, mon père m'a dit, bon, écoute, les gens parlent, etc. Et je lui ai dit, bon, écoute, je ne vais pas dire comme ça, bon, écoute, hein, mais je lui ai dit, est-ce qu'il serait possible s'il vous plaît, monsieur. Non, mais je lui ai dit que ça n'affectait pas mes études et que ça me permettait d'avoir une sorte d'autonomie, voilà, de faire des petits projets qui n'étaient pas rebolants, mais quand même d'avoir une certaine autonomie et que moi, je me sentais bien et que voilà, ça n'avait pas d'influence négative sur mes études. Et donc, j'ai fait un pacte avec lui et je lui ai dit que j'étais sûre de passer et que si je passais en session, eh bien, j'arrêtais tout. Donc, je vais passer à la première session. C'était notre deal. Donc, heureusement, tant que j'étais à Niamey, j'ai toujours passé mes examens à la première session avec des résultats corrects. Donc, c'était tout le temps comme ça, négocier avec lui et puis après le laisser. Je ne sais pas ce que ça veut dire pour lui derrière, mais je sais qu'il subissait aussi beaucoup de pression. Et il suffit d'avoir un grand frère ou un père ou un oncle qui est sensible à la pression sociale et qui veut bien se faire voir des autres hommes, pour qui c'est plus important de bien se faire voir des autres hommes que de permettre à ses filles de s'épanouir. Quand on est dans une configuration comme ça, bien, c'est très très facile de se retrouver dans une case, dans une boîte. Hein.
Oui. Très facilement. Et ce que tu évoques là concernant le rôle des hommes justement dans nos destins de femmes me ramène à une conversation avec Maréma Touré qui a déjà été diffusée, où en tant que sociologue, elle explique la même chose. Elle dit que c'est par la volonté d'un homme qu'elle est allée à l'école, mais c'est aussi par la volonté d'un homme que ses sœurs ne sont pas allées à l'école. Et du coup, elle rajoute en fait que des fois, les problématiques de genre sont beaucoup plus complexes que la manière que nous avons de les poser. Mmh. Et cette phrase m'est restée à chaque fois que j'aborde maintenant une question qui concerne le choix des femmes, etc., de ne plus être juste dans l'exclusivité, en tout cas dans nos zones, pour être clair, dans nos zones, de ne plus dire qu'on ne va s'adresser qu'aux femmes pour les problématiques de femmes, parce que c'est beaucoup plus profond et des fois beaucoup plus pernicieux que cela.
Bien sûr.
Et voilà. Sûr. Et ça m'a ramené, t'écouter m'a ramené à ça en vrai.
Bien sûr. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Il y a un discours que j'entends depuis peu quand on parle de soutenir les filles, soutenir les femmes, leur permettre de réaliser leur potentiel. On entend des gens qui nous disent en anglais, the little boy is falling behind, c'est-à-dire que on s'occupe des filles, mais en attendant, le petit garçon est négligé et prend du retard. Ouais. Et j'ai demandé une fois à quelqu'un, mais le petit garçon prend du retard par rapport à quel indicateur ? Est-ce que c'est par rapport au taux de scolarisation ? Est-ce que c'est par rapport au taux de complétion des études primaires ou secondaires ? Est-ce que c'est par rapport... est-ce que c'est les hommes qui gagnent moins d'argent ? Est-ce qu'ils ont moins de capital ? Mais il n'y a pas un indicateur sur lequel on puisse nous dire que les hommes et les garçons font moins bien que les filles. Mais ce qui se passe, c'est que l'écart se resserre.
Oui.
Et le fait que l'écart se resserre, ça veut dire ça crée des dysfonctionnements par rapport à, on l'évoquait tout à l'heure, aux privilèges que les garçons et les filles ont, les garçons et les hommes ont par rapport aux filles et aux femmes. Et ça, déjà, c'est vu comme étant une injustice. C'est-à-dire que le fait que les filles rattrapent, entre guillemets, ou sont sur le point de rattraper, on nous a dit dans combien de siècles les filles vont rattraper les garçons. Ça, déjà, c'est vu comme étant une injustice. Donc, il faut aussi qu'on... Comme tu le dis, hein, c'est tout à fait juste, il faut qu'on inclue plus les garçons, plus les hommes, pour leur faire comprendre qu'au final... c'est la société qui gagne à plus d'égalité, d'opportunités, d'égalité de droits, etc.
Exactement. Parce que si nous évoluons, nous, que ce soit dans la manière d'être, de penser, d'étudier, de nous approprier les choses, ils ont toujours ce pouvoir-là de faire en sorte que cela s'arrête. Et moi, ça me fait peur quand même. Hein. Ça,
exactement.
Ouais, ils ont toujours
exactement.
Le pouvoir de faire ça.
Exactement. J'étais récemment...
Parce qu'il n'aurait pas dû que ton père te dise non, je ne pense pas que tu serais là où tu es aujourd'hui.
Ah,
je ne sais
non,
pas comment...
Bien sûr.
Donc, voilà.
Bien sûr, parce qu'après, le coût social, c'est quoi? C'est de se dire, j'ai en moi une force qui me pousse à aller vers la réalisation de mon potentiel, on va dire, comme tout être humain. Et de l'autre côté, j'ai des restrictions qui viennent avec aussi un bagage émotionnel et social. Donc, soit je vais au clash, et ça, je trouve que c'est quand même dommage de se dire, je vais au clash et je me retrouve dans une situation où je dois choisir entre ma famille et moi-même et je me choisis moi-même. On a vu des cas et je trouve que c'est très dommage. Soit, eh bien, je fais taire mes ambitions. Donc oui, il faut embarquer les hommes.
Oui, parce que c'est très cher payé que de se retrouver seule.
Oui,
c'est
bien
très,
sûr.
Très, très cher payé.
Bien sûr.
Et je comprends justement toutes ces femmes qui... parce que des fois, on peut être très dur, hein, même en tant que femme, on peut être très dur envers une autre femme parce qu'elle choisit de laisser tomber. Mais qu'est-ce que je comprends? Qu'est-ce que je comprends que ça puisse... qu'elle ne puisse plus avancer et que le coût soit trop cher. Ça coûte trop cher.
Exactement. Le coût social est très élevé.
Il est très difficile, c'est le fait. Et le fait que tu aies parlé de ton père me donne envie de retourner sur cet environnement familial-là dans lequel tu as évolué. Si tu devais te remémorer ton père, d'abord, ensuite on parlera de ta mère, si tu devais te remémorer ton père, comment le décrivais-tu toi, toi seulement, avec ce rapport que tu as toi, que tu as eu toi avec lui?
C'était quelqu'un d'assez taciturne. Il ne parlait pas beaucoup. Pour moi, il était un peu mystérieux parce que je savais qu'il avait eu une enfance un peu compliquée avec sa maman qui est décédée quand lui est né, à sa naissance à lui. Son jumeau aussi était décédé, je pense juste un ou deux jours après la naissance ou le jour de la naissance. C'était des choses dont on ne parlait pas énormément. C'était quelqu'un qui travaillait beaucoup et qui faisait de son mieux pour s'adapter à un environnement qui lui était étrange au sens premier du mot. Ce dont je me souviens plus, c'est la période qu'on a vécue au Canada, parce que c'est là qu'on a vécu le plus longtemps pendant mon enfance. Et voilà, c'était quelqu'un qui faisait du mieux pour s'adapter tout en ayant le fantasme de pouvoir entrer au Niger demain matin.
je crois que ça, on devrait en faire un point spécial de tous les émigrés, de ce rêve-là et de cet horizon-là de toujours rentrer. Et on n'a pas parlé de ta mère.
Oui.
Si tu devais l'évoquer dans ton rapport, dans son apport à elle, dans ton éducation et dans ce que tu es devenue, qu'est-ce que ce serait?
C'est quelqu'un, je trouve pas les mots pour le dire en français. En anglais, je dirais « she's her own person ». Elle a une forte individualité, en fait. Elle est beaucoup plus extravertie que moi. Elle a besoin d'être avec les gens. C'était quelqu'un qui me disait, parce que ma sœur et moi, ma petite sœur et moi, celle qui me suit, on était très, très, très lecture. Donc, pour nous, une après-midi idéale, c'était d'être dans la chambre en train de lire. Mais ma mère, elle ne supportait pas ça. Il fallait être tout le temps ensemble. Venez au salon. Et au salon, c'est nous, mais c'est aussi tous les gens de passage. Ça peut être les voisines, ça peut être la famille. Ce n'est pas du tout tranquille. Et quand on lui disait, mais on lit, elle me dit, non, non, venez lire au salon. Voilà. Pour elle, il faut vraiment être tout le temps tous ensemble. Donc voilà, c'était un peu ça, notre adolescence. Donc elle a sa propre individualité, mais en même temps, il faut que le groupe soit ensemble, il faut qu'on mette tout ensemble, il faut qu'on partage tout. Voilà, je pense que ça vient aussi peut-être de sa culture touareg. Elle s'attache très très peu aux choses matérielles. Elle n'a pas une forte conscience de ce que c'est que la propriété privée, par exemple.
Est-ce que c'est elle seulement?
Mais c'était extraordinaire, c'est-à-dire qu'elle ne supportait pas qu'on dise, par exemple, mes vêtements. Que je dise mes vêtements, c'est-à-dire c'est le vêtement de la personne à qui ça va aujourd'hui, tu vois.
Oui.
C'est pourquoi avoir mes vêtements à moi. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, si je sais que quand je vais au Niger et que je laisse des vêtements parce que j'ai trop de bagages, etc., je peux lui dire, maman, tu peux me garder ça pour la prochaine fois parce que c'est neuf, je peux les porter encore. Ben, elle va me dire oui, mais quand je vais revenir, la dernière fois, elle m'a dit... tes vêtements ont été, ils ont été mangés par les termites. Et que mes vêtements, évidemment, hein, puisque les termites...
Comme par hasard. Mais c'est génial.
Voilà, donc après, tu retrouves les vagues parents éloignés avec tes vêtements. Bon, c'est pas si grave que ça, mais c'est quand même... Il y a quand même... C'est ça, je pense aussi, quand tu feras ton épisode peut-être sur les émigrés ou en tout cas les gens qui ont grandi dans des contextes culturels différents, c'est qu'on se rend compte que les parents ont beau essayer d'instiller une culture, une certaine culture, et c'est ce que ma mère a vraiment, c'est vraiment évertue à faire, à la fin de la journée, il y a quand même un gap culturel qui se crée. Et ce gap-là, moi, je me suis rendu compte assez tôt, hein, peut-être à 12-13 ans déjà, je me rendais compte que, voilà, cette dame, je l'aime beaucoup, mais...
Vous ne vivez pas dans le même monde.
Voilà, et est-ce qu'elle nous disait, parce que bon, quand j'étais début de l'adolescence, on était en France, un truc qu'elle aimait bien faire quand elle trouvait qu'on... Voilà, qu'il fallait nous recadrer, c'est qu'elle allait à la porte d'entrée de l'appartement, elle ouvrait la porte, elle se mettait un pied dans l'appartement et un pied sur le perron, et elle disait « Ici, c'est la France ». Donc, elle pointait dehors, elle disait « Ici, c'est la France », elle dit « Ici, c'est le Niger ».
Mais c'est incroyable.
Et elle refermait la porte.
Oui, non, mais c'est incroyable. Sauf comme on ne peut pas enlever, justement, elle ne peut pas enlever tout ce qui est la France, le Canada de vous parce que vous traversez la porte de la maison. Mais c'est assez drôle parce que je retrouve aussi ce comportement énormément chez ma famille qui est émigrée, on va dire, un petit peu partout, où les parents s'évertuent à l'intérieur de la maison de garder tout le Sénégal. Et j'arrête pas de rire et j'arrête. J'ai une de mes tantes, à chaque fois je la charrie là-dessus, j'ai dit mais toi tu es sénégalaise, tes enfants ne le sont pas. Elle me dit c'est quoi ces réflexions bizarres là? Je dis c'est pas bizarre, ils appartiennent au pays où ils sont nés, où ils ont grandi, où ils ont évolué. Ben, il y aura de la sénégalité si jamais ce terme existe ou même si ce concept existe, mais c'est tout en fait. Apparemment ils veulent rien savoir. Ils vont tous rentrer
c'est
au Sénégal.
C'est pas évident.
Ouais.
Parce que moi, je me retrouve un peu dans la position de ma mère aujourd'hui, parce que j'ai des enfants et le père est ivoirien, mais on n'est ni au Niger ni en Côte d'Ivoire. Voilà, elles sont dans des environnements très très internationaux, c'est-à-dire que leurs copines sont leurs copines, leurs copains viennent de partout. Et leur environnement immédiat, c'est même pas l'environnement du pays dans lequel on est. Et ça, j'en ai bien conscience. C'est un environnement d'expatriés, etc. Donc, comment est-ce que dans ce contexte-là, on leur inculque ce qui nous semble être positif de notre culture, sachant que nous-mêmes, on est passé à travers un filtre. Voilà. On s'est déjà un peu distancié de certains aspects qui nous paraissaient les plus nocifs. Voilà, c'est pas évident. C'est pas évident.
Absolument.
Je pense que les pratiques culturelles, etc., jouent un grand, grand rôle. La nourriture aussi joue un grand rôle. Pour nous, c'est aussi très important de manger de la nourriture d'Afrique de l'Ouest. C'est toujours très intéressant de pouvoir partager, en tout cas à travers cet aspect de la culture. Oui.
Et du coup, il y a cette transmission de la culture, par la nourriture, par les événements sociaux, mais par la langue aussi, parce que des fois, c'est ce qui se perd le plus vite. C'est par là. Et c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Moi-même, je suis issue de cultures totalement différentes et je sais que la première chose qu'ils ont perdue, c'est la langue. Et je ne sais pas comment on se recompose comme ça. Comment tu fonctionnes, toi, par rapport, où tu te positionnes d'ailleurs par rapport à ça?
C'est un sujet compliqué. C'est pas évident d'apprendre. Moi, la langue nigériane qui me viendrait, ce serait le Hausa, parce que c'est celle que je maîtrise le mieux. En revanche, c'est assez compliqué parce que bon, le père ne parle pas Hausa. Et l'autre complexité, c'est qu'il y a finalement assez peu de matériel pour transmettre la langue. Il y a très peu de dessins animés, de films appropriés, de séries appropriées, de chansons disponibles, en tout cas appropriées pour les enfants. Et il y a très peu de personnes autour qui parlent la langue Hausa. J'avais essayé un temps de trouver que ce soit une nounou ou autre qui pourrait parler, qui parlerait Hausa. En Afrique du Sud, ça n'a pas été possible. Et puis ici, encore moins. Ici, je vis au Kenya au moment où on enregistre ça. C'est encore plus compliqué. Donc, sujet compliqué, on va dire pour l'instant.
Ouais. Et beaucoup de parents, en tout cas, qui sont dans les mêmes situations, vivent les mêmes problèmes, si on peut les appeler des problèmes. Parce que je pense qu'à
un
moment,
problème.
On se voit. Ouais.
C'est un problème, Zoubida, parce que l'Afrique du Sud, le Kenya, ce sont des pays anglophones.
Oui.
Donc déjà, pour maintenir le français, c'est une guerre.
Ah ben oui, aussi.
C'est une guerre, parce que les enfants, quand on n'est pas là, moi je leur dis parler français à la maison, parce que je sais à quel point le français est une langue ingrate. Il faut vraiment beaucoup investir en termes de temps, il faut se faire corriger, sinon... On finit par parler un français qui tout de suite nous identifie comme étant quelqu'un qui n'est pas natif de la langue, en fait, qui ne parle pas la langue couramment.
Je comprends.
Et à l'écriture, c'est pareil. Et donc, moi, j'insiste pour qu'on parle français à la maison, enfin, pour qu'on ne parle pas anglais à la maison. Mais je sais que quand je ne suis pas là, les enfants parlent anglais entre eux. Oui. Je vois bien. Donc, c'est une bataille, c'est une bataille difficile, parce que je comprends moi-même, l'anglais est beaucoup plus simple, beaucoup plus abordable et beaucoup plus accueillant. Moi, ma grande fille m'a dit un jour, « Maman, est-ce que je pourrais te parler anglais ?» Parce que je peux bien parler français à papa, mais tu sais, à toi, il faut que je parle anglais, parce que l'anglais, c'est la langue de mon cœur. Et à toi, je veux, parce qu'en plus, elle est une grande négociatrice. Hein. Et à toi, je veux parler de choses qui sont importantes à mon cœur. Donc, il faut que je te parle anglais. J'ai bien joué, mais non.
Parce que quand on n'a pas le choix, en règle générale, il arrive un moment où on n'a plus forcément le choix parce qu'on a juste notre quotidien et notre actualité. Il va falloir qu'on prenne toutes ces parties de nous, en tout cas ce qui nous intéresse, comme tu l'avais dit tout à l'heure, de part et d'autre, et d'essayer de construire quelque chose de nouveau. Et en chemin, on va abandonner un certain nombre de choses. Et c'est en ce sens-là que je me demande si réellement c'est un problème ou s'il s'agit juste d'accepter que nous allons abandonner un certain nombre de choses en route, parmi lesquelles, par exemple, la langue, parmi lesquelles la langue. C'était beaucoup plus en ce sens-là.
C'est pas évident, Zoubida, parce que j'ai envie de te dire que abandonner en soi, c'est pas grave tant que c'est fait de manière délibérée. Tant que c'est fait de manière consciente. Mais en même temps, il y a des choses qu'on ne veut pas se dire que bon, là, c'est pas possible, je ne peux pas les garder. On ne veut pas non plus l'admettre.
Je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord et
la quadrature
je le
du
comprends.
cercle.
Et c'est vraiment pas évident. Nous arrivons presque à la fin du temps imparti.
C'est passé rapidement.
C'est passé rapidement. Et je vais essayer de mettre plein de choses qui me sont venues en tête à un moment. Je t'ai entendu au tout début rappeler que déjà, dès ton enfance, tu voyais qu'il y avait une différenciation qui était faite entre des camarades de jeu. Que tu ne percevais pas forcément cette différenciation-là, mais tu savais que à toi ou à d'autres, il était interdit, entre guillemets, plus ou moins, de faire ci, de faire ça ou de se comporter d'une telle autre manière. Je fais partie des personnes qui disent, et je pense que tu penses la même chose, qu'on devient femme. C'est quelque chose qu'on construit à un moment, on le devient, on ne naît pas forcément en se disant, en ayant cette pleine conscience-là d'être une femme. Et à chaque fois, je demande aux gens, quand est-ce qu'elles se sont rendues compte qu'elles étaient des femmes?
C'est compliqué comme question, hein?
Oui,
Parce
j'avoue.
que bon, il y a la biologie, hein? On va nous opposer la biologie pour dire
Bien
voilà,
sûr,
c'est
mais
très
là, on va parler de la
simple.
construction sociale.
Après, il y a la construction sociale. Et quand on a évolué dans des milieux différents, et quand on a la chance de continuer aussi à visiter des espaces différents, on se rend compte que même la définition d'être femme, elle diffère d'un endroit à l'autre. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux
Oui,
dire.
je comprends très bien.
Alors, est-ce qu'être femme, c'est ce qu'on m'assigne à être? Dans ce cas-là, je ne pense pas que je le serai jamais. En tout cas, selon mes propres termes uniquement. Ou est-ce que c'est se créer une identité à l'intérieur des contraintes que la société nous impose. C'est pas évident parce que pour moi, je suis pas tout le temps femme. C'est pas que je suis autre chose.
Oui, surtout.
C'est pas que je suis homme ou quoi que ce soit. C'est que je me pense pas forcément en tant que femme à chaque moment de la journée. Quand je suis face à un rapport que je dois lire ou quand je suis face à une intervention que je dois préparer ou une interview que je dois préparer, c'est pas Fatih, femme qui est là. Je vais pas aborder les choses en tant que femme. Et même quand il s'agit des questions de droits des femmes, parce que pour moi, c'est plus une question d'inégalité. Une des dimensions de l'inégalité. Je vais même en abordant la question de la parentalité, je me perçois plus comme un parent, avec des devoirs de parent, avec un rapport de parent, que nécessairement comme une maman. Et donc, devenir femme, je ne sais pas, ça m'arrive plusieurs fois dans la journée, parce que je switch aussi d'une identité à l'autre. Je switch d'une identité à l'autre. On peut aussi faire appel à certains aspects de notre identité selon les circonstances. Voilà. Donc c'est pas. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
Oh, et il n'y a pas de réponse attendue
Je
en vrai. C'est
ne sais pas si
vraiment
tu es
comment tu le
satisfaite en tout
perçois.
cas.
Non,
Je
mais
sais
c'est
pas.
vraiment ta perception à toi de ce que c'est et de comment tu le vis en vrai. Ce n'est que ça.
En fait, j'essaie de me détacher, ou en tout cas, ça ne revient pas naturellement de me dire en tant que femme, ce sujet me révolte. C'est plus en tant qu'humain, en tant que citoyen, en tant que citoyenne, ce sujet m'est inacceptable. Cet état de fait m'est inacceptable.
Je comprends
Parce
très bien.
qu'avant d'être une femme, je suis un sujet de droit. Je suis citoyenne du monde. Donc voilà. Voilà ce que je peux te dire.
J'entends. Et on va parler maintenant de la place, parce que même si on l'a évoqué plus ou moins tout au long de cet entretien-là, on nous assigne plus ou moins une place du fait de notre genre, du fait de notre place dans la fratrie, du fait d'un certain nombre d'éléments en règle générale, que ce soit évoqué ou pas, que ce soit perçu ou moins perçu. Est-ce qu'il y aurait eu, à un moment de ta vie, où tu as su qu'on t'assignait une place? Est-ce qu'il y a une place qui t'était assignée?
Alors, je suis une femme noire. J'ai passé une grande partie de ma vie dans des pays occidentaux, donc autant te dire, autant te dire que oui, il y a eu plusieurs contextes où on s'attendait à ce que j'occupe une certaine place, évidemment. Mais je pense que si j'avais accepté ne serait-ce qu'une de ces assignations, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Oui. Et c'est ça aussi le drame et le côté pervers et très malin des discriminations. C'est qu'on on doit dépenser tellement d'énergie pour briser ces assignations, pour déplacer cette place, en tout cas pour se déplacer dans une place autre que celle qui nous a été assignée, qu'au final, c'est de l'énergie qu'on ne met pas forcément dans autre chose. Mais c'est absolument indispensable si on veut se réaliser. Voilà, donc je sais que déjà à l'école, hein, j'étais plutôt très bonne élève et j'ai eu des remarques de parents d'élèves qui grondaient leur enfant parce que j'étais première de la classe. C'était pas ma place d'être première de la classe. En tant que seule fille, petite fille noire de la classe, c'était pas ma place d'être première de la classe. Donc déjà, ça fait partie des petites, comme je disais tout à l'heure, des petites couches d'étonnement. Je me dis, mais c'est le monde qui tourne par rond ou c'est moi? Qu'est-ce qui se passe là?
Je pense que beaucoup de fois, le monde ne tourne pas rond.
Voilà.
Cette fois, nous arrivons à la fin. Et il y a toujours sur conversation féminine, la règle veut qu'il y ait juste deux questions qui, elles, reviennent dans chaque conversation. Mais avant de te poser ces deux questions-là, je vais quand même remercier, nous l'appelons Anti ou Mouloudi, qui a permis que cette conversation puisse avoir lieu. Merci infiniment. Elle suit conversation féminine depuis le premier jour et je suis heureuse de l'avoir rencontrée parce que sans ça, cette conversation peut-être n'aurait pas pu avoir lieu. Et on va arriver aux deux dernières questions. Considères-tu aujourd'hui que tu as ta place, celle que tu t'es choisie, ta place à toi?
Oui, et en même temps, elle peut changer.
On est d'accord.
Voilà.
Oui, plein. Oui, à peu près.
Oui, complètement. Mais en même temps, elle est tout à fait sujet à changement selon ce que moi, j'aurais décidé à un moment donné.
Je suis d'accord. Et si tu avais 20 ans cette année, qu'aurais-tu aimé savoir, dire à cette version de toi, faire, devenir, écrire, dire ce que si tu avais 20 ans cette année?
Je dirais tiens bon, parce que je pense que j'avais de très très bonnes intuitions, même si je ne savais pas forcément d'où elles venaient. Je n'avais pas forcément les outils pour décrypter certaines choses que j'expérimentais, que j'expérimentais, pardon. On ne parle même plus français. Que j'expérimentais ou dont j'étais témoin, Mais j'avais de très, très bonnes intuitions que j'ai suivies. Donc, je dirais, tiens bon, tu es sur la bonne voie, vas-y.
Parfait. Fatih, merci d'avoir accepté de participer à cet épisode de Conversation Féminine. Merci beaucoup.
Merci à toi de m'avoir invitée, Zoubida.
Tout le plaisir était pour moi. Merci beaucoup.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Conversation Féminine. Je vous retrouve tous les 15 jours sur Du Coq à l'Âne. Assim deixa morrer o flor na sombra de boldinho, deixa morrer, tá sonhando. É assim que uma bomba nasce ninho. Assim deixa morrer o flor na sombra de boldinho, deixa morrer, tá sonhando. É assim que uma pomba nasce ninho.